Tradition de théologie, le dieu des philosophes et le dieu des chrétiens, par le père Jean-Marie Laurent, à Rimont, le 23 octobre 1993, signé aux conférences.
Bon, voilà. Après le maître, c'est les disciples. Alors, comme le Père l'a un peu souligné, il m'appartient d'essayer de mettre un peu en relief la grandeur de la foi, ce que nous allons faire, mais il m'a aussi dit d'essayer de répondre aux multiples questions que vous avez certainement à poser à la suite de tout ce qu'il a fait. Alors, il y a deux solutions. Soit on essaye de voir tout de suite le mystère de la foi, donc à partir de la foi d'Abraham, c'est-à-dire à partir de la réflexion qu'Hegel a fait, mais en opposition les Grecs et la foi, et on verrait ce soir les questions, ou alors au contraire, on essaye, maintenant que le Père est parti, d'essayer de préciser un peu certaines choses qu'il a dit, pour ensuite le soir, avant de dormir, essayer de voir ce que c'est que le mystère de la foi. Bon, demain, le Père Samuel, l'autre disciple. Hein? Oui, c'est le cachet. On descend et puis après on remonte. Alors, lui essaiera de voir ce que le Christ nous dit de Dieu. Hein? Si j'ai bien compris ce qu'il m'a dit, il essaiera de prendre donc le Christ dans le Nouveau Testament et voir ce que Jésus nous dit de Dieu. Parce qu'au fond, on le verra, l'objet de la foi, c'est Dieu lui-même. Et la voie qui nous conduit à Dieu, un Dieu que l'on verra dans la vision béatifique, c'est le Christ. Alors, il est bien sûr important pour nous, si on veut essayer d'approfondir un petit peu notre foi, de regarder ce que Jésus nous dit de Dieu, ou alors d'entrer dans le regard que Jésus a sur son Père. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous souhaiteriez qu'on voit tout de suite les questions. Bon, voilà, c'est ça. Donc, comme ça, vous avez le temps de préparer vos questions pour ce soir, et moi, un peu moins de temps pour préparer mon exposé sur la foi. De toutes les façons, comme le Père nous a toujours fait comprendre qu'un cours, c'est une collaboration, qu'il y a une coopération entre celui qui enseigne et ceux qui écoutent, je ne pourrais aller que dans les limites de mes possibilités. Et si vous ne m'aidez pas à aller plus loin, ben nous en resterons là où nous en serons. Alors, donc, le Père nous a cité ce passage d'Hegel. Je l'ai un peu cherché dans les œuvres d'Hegel, mais je n'ai pas réussi à le retrouver. Le passage où Hegel fait une opposition dialectique entre les Grecs et Abraham. Vous savez que ce qui caractérise, au fond, les Grecs, pour Hegel comme pour nous d'ailleurs, c'est l'intelligence, cette recherche de l'intelligence, l'intelligence qui essaye d'aller jusqu'au bout de la vérité et qui a une formidable autonomie. L'intelligence du Grec, c'est une intelligence qui sait qu'elle est autonome et qui essaye d'aller le plus loin possible dans la connaissance de la vérité. Et l'intelligence grecque est formidablement libre. Et alors évidemment, elle est très séduisante pour un esprit comme celui d'Hegel, comme elle est très séduisante aussi pour nous-mêmes. On aspire tous à cette liberté de l'intelligence qui arrive par ses propres ailes à découvrir les vérités les plus profondes sur l'homme, sur la nature, etc. Et en face des Grecs, il y a Abraham qui, lui, au contraire, lorsque Dieu se révèle à lui, se fait son esclave. On a l'impression que la vérité que Abraham découvre est plus grande que celle des Grecs, mais du coup, la conséquence pour lui-même, c'est qu'il devient un esclave. Donc, voyez cette opposition dialectique entre, d'une part, la liberté de l'intelligence et, d'autre part, l'esclavage de la foi. Et au fond, pour quelqu'un comme Hegel, au contraire, la foi est donc inférieure à la connaissance. Alors, il est bien évident que pour nous-mêmes, au contraire, La foi, normalement, devrait être supérieure à la recherche de l'intelligence. Et justement, c'est là un peu le but, c'est d'essayer de comprendre comment l'intelligence peut se mettre au service de la foi. Connaissez cette parole de Plotin qui dit que comment dire, se soumettre à quelqu'un d'inférieur à soi, c'est s'abaisser. Tandis que se soumettre à quelqu'un de supérieur à soi, c'est s'élever. On va essayer de démontrer comment l'intelligence, lorsqu'elle se met au service de la foi, au contraire, s'ennoblit, elle s'agrandit, elle s'élève. Alors, si on regarde Abraham, Abraham, il faut quand même comprendre ce qui se passe. Pendant des siècles et des siècles, les traditions religieuses parlaient bien de Dieu, savaient que Dieu avait créé le monde, mais Dieu ne se faisait plus tellement connaître parmi les siens. Et tout d'un coup, Dieu se révèle à Abraham. Et Dieu se révèle à Abraham en lui disant, je suis ton Dieu. Donc Dieu se révèle à lui comme une personne et lui fait comprendre qu'il y a une relation personnelle entre lui et celui à qui il se révèle. Encore une fois, la question qui est la nôtre, c'est de savoir, au fond, qu'est-ce qu'il y a de plus dans la découverte d'Abraham, que dans la découverte du philosophe. Au fond, c'est ça, tout le thème de la session. Le Dieu des philosophes et le Dieu des croyants. Qu'est-ce qu'il y a de plus dans le Dieu des croyants que dans le Dieu qui est découvert par les cinq voies que nous avons vues ce matin? Alors si on regarde Abraham, on se rend compte qu'il y a déjà quelque chose, c'est que non seulement il découvre l'existence de Dieu, mais il découvre que ce Dieu qui se révèle à lui est un Dieu qui lui parle et un Dieu qui l'aime. Puisqu'on ne parle pas, il ne peut pas se révéler, il ne peut pas s'abaisser jusqu'à l'homme s'il n'a pas une raison. Alors en découvrant lorsque Dieu lui dit qu'il est son Dieu, donc il découvre que c'est un Dieu personnel et qu'il lui appartient. Donc il y a une relation personnelle entre Abraham et son père. Et immédiatement, quand Abraham découvre ça, il adhère. Il y a une adhésion. Vous voyez, on a vu ce matin dans la découverte de Dieu à partir des cinq voies, qu'au fond, ces voies nous conduisent à l'adoration, parce qu'on découvre Dieu et Dieu notre Créateur, Dieu la cause de tous les êtres. Et donc Dieu la cause de notre être et Dieu cause de notre âme. Et Dieu aussi fin de toute cette création, d'où l'adoration. Mais là, il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin. Il y a une adhésion totale. La révélation de Dieu à Abraham entraîne immédiatement une adhésion totale d'Abraham. La foi implique toujours une adhésion. Et de cette adhésion, Abraham se soumet à Dieu. Ce n'est pas simplement une simple adhésion de l'intelligence, vue de l'esprit ou je ne sais quoi, une adhésion qui implique tout de suite une soumission. Abraham se soumet à Dieu. Donc, il y a une soumission de l'intelligence à Dieu. Et cette soumission, comme je le disais tout à l'heure en me référant à la parole de Plotin, est une élévation. Et vous voyez, immédiatement, dès qu'on entend soumission, on pense tout de suite, et c'est vrai, à l'obéissance. Immédiatement, la foi engendre l'obéissance. Alors, évidemment, Hegel, lui, ne peut rien comprendre à la foi d'Abraham parce que l'agir d'Abraham ne peut être jugé que dans la lumière de la foi. Et pour juger Abraham, il faut avoir soi-même la foi. La foi nous donne une certaine lumière surnaturelle. Alors maintenant, évidemment, pour comprendre peut-être la perfection de la foi après Abraham, il faut regarder celle qui a vécu d'une manière encore plus parfaite cette foi, à savoir la Vierge Marie, mais on retrouve les mêmes choses. Marie vit dans une relation personnelle avec Dieu, et elle vit de l'espérance. On n'a pas, j'ai pas souligné ça tout de suite, mais dans la révélation de Dieu à Abraham, il y a tout de suite la promesse. Et Marie vit de cette promesse. Elle sait que Dieu est un Dieu personnel qui s'adresse aux hommes et qui leur a fait une promesse. La promesse de son retour. La promesse que l'homme peut vivre une certaine vie avec Dieu. Et immédiatement, qu'est-ce qui se passe? Dès que Marie peut, c'est-à-dire peut dans son intelligence et dans son cœur, elle se soumet entièrement à Dieu, à son bon vouloir, et elle se consacre entièrement. Donc la foi, chez Abraham comme chez Marie, provoque immédiatement une adhésion totale qui implique une soumission totale, et qui s'exprime chez Marie dans la consécration. Alors, d'abord le premier point, Dieu se révèle. Dieu se révèle. L'objet de la foi, ce n'est pas d'abord la parole de Dieu. L'objet de la foi, c'est Dieu qui se révèle. Donc c'est une personne. Vous voyez, dans certaines religions, comme dans l'islam par exemple, le Coran a une valeur. Les paroles du Coran, qui sont au fond les paroles, sont des paroles pratiquement divines. Donc on doit les respecter, elles sont sacrées. Tandis que quand même dans notre religion, les paroles sont le moyen par lequel Dieu se révèle à moi. Et l'objet de la foi, ce ne sont pas les paroles elles-mêmes. L'objet de la foi, c'est Dieu qui se révèle à moi. Et Dieu se révèle par la parole. Donc la parole est un moyen, tandis que Dieu lui-même est la fin. Et l'objet de la foi, bien sûr, c'est essentiellement et principalement Dieu qui se révèle, et en même temps, quand il se révèle, il me révèle ce qu'est l'homme. Et de même que lorsqu'il me révèle ce qu'est l'homme, il se révèle lui aussi. Donc va tomber sous l'objet de la foi tout ce qui va m'ordonner à Dieu, comme par exemple les sacrements. Mais au fond, tout ça, c'est pour me faire comprendre qui est Dieu. L'objet principal de la foi, c'est Dieu qui se révèle. Alors, cet objet de la foi est évidemment essentiellement simple, puisque Dieu est simple lui-même. Alors, on pourrait dire que jusqu'à présent, Luther est d'accord, puisque, au fond, il suffit d'adhérer à Dieu. Un seul acte d'intelligence, on adhère à Dieu, il n'y a pas besoin de tellement réfléchir, puisque, au fond, dans la foi, Dieu se révèle à moi comme une personne, il suffit que j'adhère à lui et que je lui dise que je l'aime. Mais alors, en fait, c'est mettre un peu entre parenthèses le conditionnement de mon intelligence. Parce que lorsque Dieu se révèle, il se révèle à moi en tant que croyant. Et je ne peux pas être croyant sans mon intelligence. L'intelligence fait partie de ce que je suis. Donc, lorsque Dieu se révèle à moi, il se révèle en tenant compte du conditionnement de mon intelligence. Mon intelligence est illuminée par la foi, mais elle garde son conditionnement. Or, le conditionnement de l'intelligence, implique en lui-même de progresser par division et par composition. Ça, c'est le propre de l'intelligence. Elle divise pour mieux comprendre ou elle compose, toutes sortes de raisonnements, qui l'aident à progresser dans la connaissance. Et c'est de là que va naître la théologie. Et c'est ce qui fait aussi que l'objet de la foi est explicité d'une manière complexe, à travers les articles du Credo. On ne peut pas dire en un mot ce qu'est la foi. On est obligé, à cause du conditionnement de notre intelligence, de dire en plusieurs articles, en plusieurs phrases, en plusieurs chapitres, ce qu'est le contenu de notre foi. Alors, il y a une chose qui est très importante, surtout pour ceux qui font des études de théologie, c'est de bien comprendre que la foi ne s'arrête pas à l'énoncé de cette foi. L'énoncé de la foi est le moyen par lequel je rejoins l'objet propre de ma foi, à savoir Dieu. Alors, quand on fait de la théologie, on a l'habitude de s'arrêter, de réfléchir sur les données de la foi. Bon, j'ai appris que le Christ est à la fois le Verbe de Dieu et en même temps le Fils de la Vierge Marie. Donc, je réfléchis sur la double nature, la nature humaine et la nature divine, et je me dis, bon, deux natures, tout ça, c'est dans une seule personne qui s'appelle Jésus-Christ. Et alors, je réfléchis, je cogite, sur le donné de la foi qui m'est donné par l'Église, par la tradition ou par l'Écriture. Mais il faut jamais oublier, lorsqu'on fait des études de théologie, que se donner de la foi doit normalement me conduire à une réalité à laquelle j'adhère par l'intermédiaire de cet énoncé de la foi. Donc, il faut purifier notre intelligence, et c'est ça le but de la théologie, hein, parce que plus on a une intelligence pure, plus notre foi sera purifiée. Alors la théologie nous aide à purifier notre intelligence, alors la philosophie aussi, pour que notre foi soit beaucoup plus pure. Mais il ne faut pas s'arrêter aux données de la théologie, il faut dépasser chaque fois ces données de la théologie pour adhérer, au fond, pour contempler la vérité qui nous est révélée à travers ces données que nous étudions. La foi ne peut s'arrêter qu'à une réalité, la réalité divine, la réalité de Dieu. Et c'est ça qui est difficile dans les études de théologie, parce que au fond, il y a une certaine satisfaction intellectuelle à manier des concepts, hein, alors et qui produisent une certaine joie, et on s'arrête à cette joie qui est au fond très subjective et très personnelle, très orgueilleuse, alors qu'en fait, hein, cette cogitation qu'on doit pousser le plus loin possible doit nous conduire, hein, à la vérité qui est révélée, à Dieu qui se révèle. Donc encore une fois, la foi ne peut s'arrêter qu'à la réalité, hein, à Dieu qui se révèle. Donc même si dans son mode humain la foi a quelque chose de complexe, hein, son objet est absolument simple. Bon, Dieu se révèle, ça c'est la première chose que l'on voit, et immédiatement après, Abraham adhère, hein, simultanément. Dieu se révèle et Abraham adhère. Et il adhère à un point qui est au fond pratiquement la folie. Et on comprend que Hegel, qui n'a pas la foi, ne comprend rien du tout. Hein? C'est parce qu'il adhère au point de sacrifier le fruit de la promesse. Hein? Lorsque Dieu se révèle à Abraham, il est déjà un peu âgé, et il lui promet un fils. Et alors, une fois qu'il a son fils, et qui peut dire son num dimittis, il peut dire qu'il peut aller maintenant dormir puisque j'aurai effectivement toute une multitude qui pourra descendre de mon fils. Dieu lui dit, non, tu prends ton fils, maintenant tu l'amènes sur la montagne et tu le sacrifies. Et Abraham prend son fils, va sur la montagne et le sacrifie. Ou alors, il est tout près de le sacrifier. Donc c'est fou de voir jusqu'à quel point la confiance qu'Abraham a en Dieu. Humainement, c'est incompréhensible. Et c'est pour ça que Hegel, qui voit les choses humainement, ne comprend pas. Et nous-mêmes qui voyons trop souvent les choses humainement, avons du mal à comprendre. On l'accepte pour Abraham parce qu'il est loin, mais on l'accepte plus difficilement pour nous-mêmes lorsque ça nous arrive. Alors, l'adhésion de foi, au fond, quelle est-elle? Pour bien la comprendre, saint Thomas prend l'exemple, enfin, fait la distinction entre la connaissance, hein, scientifique, disons, la connaissance normale, et puis l'opinion. Dans la connaissance, hein, lorsque ce qui est connu est saisi par lui-même ou alors est saisi par un autre, hein, l'intelligence est inclinée vers cette vérité ou vers cette réalité par l'objet lui-même. Hein. Donc c'est l'inclination par l'objet. Tandis que dans l'opinion, lorsque ce qui est connu ne l'est pas par lui-même et ne l'est pas non plus par un autre, hein, d'une manière évidente, hein, on y adhère par l'effet de la volonté. C'est la volonté, hein, qui pousse l'intelligence à adhérer à la réalité. Hein, et c'est ce qu'on appelle l'évidence par le sujet. Alors, c'est la première analogie que saint Thomas prend, hein, pour expliquer ce qu'est la foi, c'est justement l'opinion. Mais à la différence de l'opinion, hein, comme toute analogie, il y a quelque chose d'identique et puis quelque chose de totalement différent. C'est que dans l'opinion, on n'a pas la certitude. Et on adhère dans l'opinion à la réalité toujours avec une certaine crainte. Hein, c'est-à-dire que du fait qu'on n'en a pas l'évidence, il y a quand même toujours une part de doute. Même si on tait ce doute-là, dans l'opinion, le simple opinion, en fait, il y a ça. Tandis que dans la foi, au contraire, il y a la plus grande certitude et on adhère
à la réalité crue, sans crainte.
Ce qui explique hein, la force d'Abraham. S'il avait pris au fond la révélation de Dieu comme une opinion, il se serait mis à craindre et il n'aurait jamais agi comme il a agi. Donc dans la foi, il y a toujours cette certitude et l'absence totale de crainte. Une certitude absolue. Saint Thomas montre qu'en fait, pourquoi est-ce qu'il peut y avoir certitude? Parce que la certitude provient de l'autorité. Or, il n'y a pas plus grande autorité que celle de Dieu. Donc, quand Dieu me dit quelque chose, il y a beaucoup plus de chances que ça soit vrai que lorsque c'est quelqu'un dans la rue, un journaliste. Donc, dans l'adhésion de foi, qu'est-ce qui se passe? C'est la volonté qui incline l'intelligence à adhérer. Donc il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas de réduire la foi à la théologie. La foi a quelque chose de plus que la théologie, puisqu'il y a adhésion de l'intelligence et une adhésion qui se fait par la volonté. Donc comme on l'a dit, l'intelligence n'adhère pas par l'évidence, mais par la volonté. Et donc le mystère auquel on adhère dans la foi demeure totalement dans sa transcendance. L'adhésion ne fait pas en sorte que l'intelligence voit les choses d'une manière, dans sa totalité. L'intelligence n'est pas intuitive. Cette adhésion de la foi ne rend pas l'intelligence intuitive, c'est-à-dire on n'arrive pas à saisir d'un coup ce qu'est le mystère. Le mystère demeure totalement dans sa transcendance. Et donc, si le mystère demeure totalement dans sa transcendance, la recherche doit demeurer. On doit toujours approfondir notre regard sur les mystères. Ce que disait le père tout à l'heure, des professeurs qui ne font que répéter, tandis que le professeur doit au contraire essayer de réfléchir, penser au moment où il parle. Au fond, c'est ça. Il s'agit toujours de rechercher, d'aller plus loin dans la connaissance du mystère, dans l'approfondissement du mystère. Et en fait, pourquoi la foi provoque immédiatement, disons, la révélation de Dieu, qui provoque cette adhésion, aussi bien chez Abraham que chez la Vierge Marie, pourquoi ça provoque la consécration? Parce qu'en fait, ce qui légitime, la raison qui légitime la foi, c'est quoi? La foi est en vue de quoi? La vision béatifique. La seule raison qui légitime la foi, c'est la vision béatifique. Et c'est pour cela que la foi demande la contemplation. Parce que la vision béatifique, elle nous est promise. C'est pour ça que la foi est accompagnée de l'espérance. On espère cette vision et on y croit. La vision béatifique, c'est quoi? C'est la vision de Dieu en lui-même. Alors, qui ne peut pas se faire par les seules forces de l'intelligence, mais cette intelligence est élevée par la lumen gloriae, la lumière de gloire. Dieu donne une lumière de gloire qui élève l'intelligence et qui permet de le voir en lui-même. Et c'est ce que nous espérons. Ça sera le repos pour l'éternité de notre intelligence. Il n'y aura plus toutes ces recherches, ces maux de tête qu'on se donnera. Et enfin, on pourra contempler dans l'éternité Dieu tel qu'il est. Et par lui-même, parce qu'au fond, la lumière de gloire qu'il nous donne, c'est lui-même qui se donne à nous. C'est la lumière de son intelligence qui élève notre intelligence pour le voir tel qu'il est. Et la foi n'a de sens qu'en raison de cette vision béatifique qui nous est promise. quand on dit que c'est l'espérance qui rend raison de notre consécration religieuse, c'est exactement ça. Si Marie se consacre entièrement à Dieu, c'est parce que elle sait, elle veut lui appartenir totalement dès maintenant. Et la foi nous fait déjà vivre actuellement de cette vision béatifique, mais dans la foi et la charité. Vous voyez, donc je disais tout à l'heure que la foi demande la contemplation. On ne peut pas lire la parole de Dieu comme en sociologue ou en je sais pas quoi, en philologue ou je ne sais pas quoi. Quand on est dans une attitude de foi, on reçoit cette parole de Dieu et qui provoque en nous, qui fait germer en nous un acte de contemplation. Et la différence entre la contemplation et la vision béatifique, c'est justement le passage d'une vie intellectuelle, la vie intellectuelle a pour finalité la contemplation, à la vie surnaturelle. La vision béatifique, c'est l'épanouissement de la vie spirituelle en nous, la vie surnaturelle en nous. Voilà du reste dans le Compendium Theologiae de saint Thomas. C'est un ouvrage qu'il a écrit à la fin de sa vie et qu'il a écrit à Réginald. Réginald, c'était son secrétaire, qu'il a accompagné tout au long de ces années pour l'aider dans ses ouvrages. Et alors, pour le remercier de sa fidélité et de tout le travail qu'il a fait, il a écrit un petit ouvrage qui résume les articles de la foi. Et ensuite, donc, qui condense ce en quoi on doit croire, la foi, ensuite l'objet de l'espérance et puis la charité. Mais il est mort entre-temps, il a fait une dizaine de chapitres de l'espérance et il n'a pas pu faire la charité. Mais au début, il essaye de définir la foi. Et voilà comment il définit la foi. La foi est l'avant-goût de cette connaissance qui doit nous rendre heureux dans le siècle futur. Donc effectivement, confirmation de ce qu'on vient de dire, à savoir que la foi a pour finalité la vision béatifique. L'avant-goût de cette connaissance qui doit nous rendre heureux dans les siècles futurs. L'objet contemplé dans la foi nous rend heureux. C'est déjà une béatitude actuelle que de pouvoir contempler dans la foi les mystères du Sauveur et les mystères de Dieu qui se révèlent à nous. L'apôtre dit quelle est la substance des choses qu'on doit espérer. Tout ce qu'on espère et qui sera bon pour nous. La substance des choses qu'on doit espérer. C'est comme si elle faisait subsister en nous et en son commencement la future béatitude. C'est comme si elle faisait subsister en nous et en son commencement la future béatitude. Évidemment, quand on a dit ça, après, on n'a plus qu'une chose, c'est se taire. Et il continue, cette connaissance béatifiante, connaissance béatifiante. Vous voyez, ça, c'est une expression qui résume très bien ce qu'est la foi. Connaissance béatifiante. Elle est une connaissance, elle s'enracine dans l'intelligence, et béatifiante, c'est sa finalité. Et elle provoque en nous ce bonheur, bonheur surnaturel. Cette connaissance béatifiante, nous enseigne le Seigneur, peut se ramener à deux points. Vous direz quel point ? Les deux points essentiels de la foi. C'est quoi ? Le mystère central de la foi, c'est lequel ? Vous commencez toutes vos prières par ce mystère-là. Mystère de la Trinité. Et le deuxième mystère, le deuxième point, non ? C'est le Christ. Et il précise donc ces deux points, nous ramener à deux points, la divine Trinité et l'humanité du Christ. Saint Thomas dit l'humanité du Christ. Nous, on dirait peut-être simplement Jésus, Jésus-Christ, le Christ, mais il dit l'humanité du Christ. Autour de ces deux points se concentre toute la connaissance de foi.
Autour de ces deux points se concentre toute la connaissance de foi. Le mystère de la Trinité et le mystère de l'humanité du Christ. Le Verbe fait chair, hein, le prologue de Saint Jean. Autour de ces deux points se concentre toute la connaissance de foi. Elle n'est pas, la connaissance de foi ne se résume pas uniquement à ces deux points. Hein, mais c'est autour de ces deux points que se concentre toute la connaissance de foi. Ce qui n'est pas étonnant, car l'humanité du Christ est la voie qui conduit au Père. S'il n'y avait pas l'humanité du Christ, la foi, au fond, serait vaine. Parce que on nous donnerait à connaître ce qu'on ne pourrait pas, ce qu'on on ne pourrait jamais connaître dans sa vérité. Alors, on ne ferait espérer ce qui nous serait jamais donné. C'est parce que le Christ nous a sauvés, hein, qu'on aura cette vision béatifique. Et rappelez-vous que la foi, c'est tant qu'on est en voyage. Quand on sera dans la vision béatifique, la foi va disparaître. Puisqu'on aura l'évidence de ce qu'on verra. On verra Dieu, on en aura l'évidence, et donc il n'y aura plus la foi. Il n'y aura plus non plus l'espérance, parce qu'on ne pourra plus espérer ce qu'on a déjà. On n'espère pas ce qu'on possède. Par contre, la charité restera. Il faut donc, tant qu'on est en voyage, connaître la voie par laquelle on peut arriver au but. Et dans la divine patrie, on ne pourrait dignement rendre grâce sans avoir connu la voie par laquelle on est sauvé. Et vous voyez, hein, au terme, l'action de grâce. Donc, tant qu'on est ici, il faut connaître la voie par laquelle on arrivera à Dieu. On arrive à Dieu. Et quand on sera là-haut, il faudra quand même avoir connu ce par quoi on est arrivé à lui pour le remercier. La moindre des choses qu'on pourra faire. L'action de grâce, remercier Dieu. Il reste encore un peu de temps. Alors, vous comprenez que, au fond, dans le problème posé par Hegel. Hegel met en opposition les Grecs et Abraham parce qu'il voit dans Abraham un esclave, quelqu'un qui a renoncé à être lui-même. Tandis que le Grec, au contraire, exalte l'homme. Il suffit de voir la statue grecque, l'art grec. On voit comment l'homme est exalté, en fait. Mais au fond, on comprend que cette opposition n'est pas juste. On comprend que cette opposition n'est pas juste d'abord et premièrement parce que il n'y a pas d'opposition. La foi ne supprime pas l'intelligence. La foi est reçue par l'intelligence et demande à l'intelligence de se développer le mieux possible pour essayer d'être le mieux reçu possible. Donc, il n'y a pas d'opposition dialectique entre la foi et l'intelligence. Au contraire, la foi exige de nous d'avoir une intelligence beaucoup plus vive. Donc, la foi appelle l'intelligence. Ensuite, Hegel a tort. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas d'opposition dans les objets. L'objet de la foi, c'est Dieu. L'objet de l'intelligence, c'est la vérité. Dieu est la vérité première, il est la cause de toutes les choses, et toute vérité prend sa vérité de Dieu lui-même. Donc il n'y a pas d'opposition du côté de l'objet. Ce qui donne son sens à une vérité, au fond, c'est Dieu. Puisque Dieu est la cause de l'univers, il est la fin de l'univers, il est la cause de toute chose. Et c'est lui qui donne son sens aux choses. Ça se comprend déjà quand on regarde le mystère de la création, et quand on regarde aussi le gouvernement divin, la providence divine. Et ça se comprend encore beaucoup plus, évidemment, quand on regarde tout ça dans la vision de la foi. C'est Dieu qui donne le véritable sens aux choses. Et pensez à la question de Pilate, qu'est-ce que c'est que la vérité?
au fond, la vérité première, hein, l'ultime vérité, la vraie vérité, comme on dit en Afrique. Hein, la vraie vérité, c'est Dieu lui-même. Est-ce que ce que tu dis est vrai, vrai? On insiste, on dit comme ça en Afrique. La vraie vérité. Et ce que je dis, c'est la vraie vérité. Et c'est Dieu. Et en plus, Hegel, dans son opposition dialectique, voit d'un côté l'esclave et d'autre côté l'homme libre. Alors, est-ce que cet esclavage n'est pas au fond une suprême liberté? Parce que lorsque Abraham et surtout lorsque Marie se consacrent entièrement à Dieu, est-ce qu'au fond cette consécration, c'est-à-dire l'abandon de tout ce qu'elle est, tout son esprit, tout son être, tout, dans tout ce qu'elle est à Dieu, lui permet au fond une liberté encore plus grande, puisque elle se noie, elle noie son âme dans la liberté trinitaire. Parce que son âme est entièrement donnée au souffle de l'Esprit Saint. Donc, elle sera entièrement mue par l'Esprit Saint. Donc, tout ce qu'elle vivra, elle le vivra sous la mouvance de l'Esprit Saint. Donc, la liberté de Marie n'est plus une liberté humaine, c'est vrai, mais elle devient une liberté trinitaire. C'est l'esclavage d'amour dont nous parle Saint-Louis-Marie Aignan de Montfort, qui au fond un esclavage qui nous rend infiniment plus libres, puisqu'elle nous fait vivre de la liberté même de Dieu. Évidemment, cette liberté n'a rien à voir avec nos libertés humaines. Mais elle est tellement plus grande, et c'est une liberté qui apporte la plénitude du bonheur, qui nous dépasse d'ailleurs. Parce que le bonheur que vit Dieu au sein de la Trinité est un bonheur infini, et donc qui dépasse nos capacités totalement. Et pourtant, Dieu nous permet d'en jouir, dans la foi bien sûr pour l'instant. Donc c'est heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur. Alors, il nous appartient maintenant à chacun d'entre nous d'essayer d'en vivre autant que nous pouvons. Et comme je disais tout à l'heure, la foi est reçue dans l'intelligence. Et il nous appartient d'essayer de purifier notre intelligence pour que la foi en nous soit plus pure. Alors, il y a aussi une autre chose par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, notamment la citation de Saint Thomas sur la foi. On comprend que si la foi est ordonnée à la vision béatifique, la foi doit prendre toute notre vie. Et on comprend ce que dit le Saint-Père dans son encyclique lorsqu'il dit que il n'y a pas d'opposition entre la foi et la morale, ou plutôt, disons, foi et morale vont ensemble. Je ne peux pas dire j'ai la foi et puis je ne suis pas tout à fait la morale chrétienne sur tous ces plans. Bon, il y a quelques commandements que je veux bien suivre, puis d'autres, bon, on essaiera de voir un peu plus tard. Le pape nous fait comprendre qu'en fait, je ne peux pas me dire chrétien, je ne peux pas dire que j'ai la foi si je ne suis pas la morale chrétienne. Il y a une unité. Une unité entre les deux. Parce qu'au fond, la foi n'est pas quelque chose qui atteint immédiatement l'être. Alors Saint Thomas étudie, lorsqu'il étudie la foi, il se demande si la théologie, plutôt quand il étudie la doctrine sacra, la théologie, si elle est plutôt l'intelligence spéculative ou l'intelligence pratique. Mais en fait, c'est une fausse question. C'est ni l'un ni l'autre. C'est quelque chose. Il y a un dépassement de l'intelligence pratique et de l'intelligence spéculative. Parce que c'est tout mon être qui est ordonné à Dieu, qui est pris dans la grâce et qui doit être intégré dans la vision.
se révélait comme étant une personne. Comment est-ce qu'il peut dire ça?
Ben, il faudrait reprendre, j'ai failli l'amener, mais je ne l'ai pas pris au dernier moment. Mais je suis le Seigneur ton Dieu.
Oui, mais est-ce que ça suffit pour dire qu'il se révèle comme une personne?
Oui. Pour le prouver d'une manière un peu matérielle, il faudrait prendre le texte hébreu et puis montrer comment dans le sens du mot hébreu qui est employé, mais à partir du moment où il dit le Seigneur est ton Dieu. Hein, je suis le Dieu qui t'appartient à toi. Je suis ton Dieu à toi. Donc ça veut dire qu'au moins qu'il y a une relation personnelle entre Dieu.
D'accord, une relation personnelle. Une relation. Mais dire que par le fait même, ou alors tu peux dire directement que c'est une personne, mais qu'est-ce que tu as dit?
Oui, mais par analogie, de toute façon, même maintenant, quand tu dis, indépendamment d'Abraham, que Dieu est une personne, on va vite. Parce que c'est quand même une analogie qui est quand même assez, qu'il faut vraiment purifier pour comprendre véritablement le sens. Et alors en plus, il est trois personnes. Ça devient encore plus compliqué. Mais ce que je voulais dire, c'est surtout souligner l'aspect qu'il y a une relation personnelle. Je suis le Seigneur, ton Dieu. Et il faut comprendre, nous on a du mal à comprendre parce que, en fait, on vit dans cette, entre guillemets, dans cette intimité du Christ depuis longtemps. Hein. Bon, sauf si on vient tout juste de se convertir, mais enfin quand même, on a l'habitude de ça. C'est quelque chose d'acquis pour nous que Dieu s'intéresse à nous. Mais pour Abraham, ça faisait longtemps qu'on n'en entendait plus trop parler de Dieu. Hein. On a eu une session récemment là, sur les religions dites primitives, qui est le professeur d'ethnologie qui nous a fait cette session, nous montrait que dans les religions primitives, il y a la notion de Dieu créateur, mais en fait, on ne parle pas de Dieu. Pourquoi? Parce que on sait que Dieu est parti à un moment donné. Et dans la plupart de ces religions traditionnelles, on trouve ça. Alors, il a pris l'exemple de l'Afrique, mais en précisant qu'on retrouvait ça aussi bien en Australie peut-être en Amérique du Sud ou ailleurs. Hein, parce que toutes ces religions ont la conscience qu'à un moment donné, l'homme a agi de telle manière que Dieu a été obligé de s'en aller. Et alors, il n'avait pas cette notion du retour de Dieu. Et puis tout d'un coup, Dieu apparaît à Abraham et lui dit, ben, je reviens, je suis là, je suis ton Dieu. Hein. Donc, pour Abraham, très certainement, ça a été tout de suite perçu de cette manière-là. Dieu vient vers moi, donc il se passe quelque chose, Dieu revient. Et Dieu fait la promesse à Abraham de lui donner toute une descendance, donc c'est pas seulement pour lui, Dieu revient se faire un peuple. Alors progressivement, on voit comment Dieu va se révéler pour faire comprendre qu'au fond, c'est l'humanité tout entière qu'il veut se redonner. Non, parce qu'il a pas vu Dieu tel qu'il est. La vision béatifique, c'est quand même, c'est voir Dieu en lui-même. Or, même dans le buisson ardent ou nulle part, Dieu, on dit dans l'Écriture, voir Dieu, c'est mourir. On ne peut pas voir Dieu sans mourir. Donc, Abraham n'a pas vu Dieu, mais Dieu s'est révélé à lui. Alors, prémisse, oui, dans la foi. C'est sûr qu'est née en lui une espérance au moment où Dieu lui a apparu. Alors, une espérance peut-être très humaine, enfin humaine, oui, hein, quand même pas, c'était pas tout de suite la saisie du mystère du Christ sauveur et puis de la vision béatifique. Je ne sais pas si immédiatement Abraham a compris que après la mort, il ira contempler Dieu dans, je ne sais pas. Oui. D'abord, c'est la révélation. C'est la révélation parce qu'il est montré que, en fait, Dieu se révèle à nous. Et tout dans la révélation est ordonné au Christ sauveur. Et le fruit de la rédemption, c'est la vision béatifique. Mais c'est toujours la question de savoir, bon,
Si l'homme n'avait pas péché, bon, il n'y aurait pas eu besoin d'un sauveur. Et alors, est-ce que le Christ serait venu s'incarner? Le Christ est incarné pour nous sauver. Et toute la révélation est ordonnée au mystère du Christ. Et le Christ nous sauve pour nous faire vivre de la vision au sein de la Trinité, la vision béatifique. Et c'est pour cela que, au fond, c'est la révélation qui nous fait comprendre que la foi est ordonnée à la vision béatifique. Alors, voilà, bon, ça c'est une autre question. On pourrait peut-être voir ça, comme c'est une. Il faudrait peut-être un peu développer ça, on pourra voir ça ce soir. La première question. C'est très important.
Session de théologie, le Dieu des chrétiens et le Dieu des philosophes, par le Père Jean-Marie Laurent à Rimont, le 23 octobre 1993, 7e conférence.
Il semble que les frères sont encore en train de faire la vaisselle. Alors, mais ça n'empêche pas. Comme on va d'abord répondre aux questions, hein, profiter de cet entretien pour essayer de répondre aux questions des uns et des autres, on peut déjà commencer. Ben, tout d'abord, je vais les lire, celles qui ont déjà été posées, et puis après, on va essayer d'y répondre. La première question, vous l'avez entendue tout à l'heure, hein, comment peut-on savoir que le Dieu des croyants, c'est le Dieu des philosophes? Bon, je tiens à remercier la personne qui a posé cette question parce que, vous voyez, le Père nous a un peu, enfin, moi, il m'a vraiment un peu dérouté parce que c'est hier soir, avant de dormir, qu'il m'a dit de prendre sa suite aujourd'hui. Et comme je ne savais pas du tout ce qu'il allait faire ce matin, et c'est à midi qu'il m'a dit, bon, il faudrait que tu montres la grandeur de la foi. Alors, vous voyez, c'était... Alors, après avoir effectivement vu la grandeur de la foi, il faut qu'on essaye de reprendre ensemble ce que la philosophie me dit de Dieu, hein, ce que la métaphysique me dit de Dieu, et puis voir, en fait, si ce qui est dit de Dieu correspond à ce que dit ma foi. Parce que quand on pose cette question, hein, on la pose évidemment du point de vue de la foi. Hein, nous qui croyons en Dieu, est-ce que ce Dieu en qui nous croyons correspond effectivement à ce que les philosophes disent de Dieu? Ou plus exactement, à ce que les philosophes disent de l'être premier, hein? Et comme dit saint Thomas, que les traditions religieuses appellent Dieu. Saint Thomas dit, cet être premier, c'est Dieu. Bon, il y avait une autre question. Vous dites que le Dieu qui se révèle à Abraham est un Dieu personnel. Comme les frères et les sœurs ont suivi visiblement un cours du Père l'an dernier, il me tente un piège parce que du Cameroun, j'ai pas pu suivre ce qu'il disait. Alors, vous dites que le Dieu qui se révèle à Abraham est un Dieu personnel. Mais est-ce là une différence avec le Dieu des philosophes, puisque par la philosophie, on découvre aussi Dieu comme un être personnel?
Alors, est-ce que c'est le propre de l'expérience mystique d'Abraham de découvrir que Dieu est un être personnel?
Bon, là, on dit que le philosophe découvre déjà que Dieu est un être personnel. Mais on m'a aussi posé la question, est-ce que la philosophie arrive à nous dire que Dieu est une personne? C'est pas évident. Alors, évidemment, pour répondre à cette question, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'une personne. Et voir si cette notion, la ratio personnaliste, la notion de personne peut être attribuée à Dieu. Si vous avez la réponse, il faut me la donner, mais on va essayer de la trouver ensemble. On va essayer de réfléchir. Comme ça, on ne sera pas uniquement des perroquets. Pourriez-vous dire de quelle manière Kant a-t-il critiqué les cinq voies de saint Thomas? Et ensuite, qu'est-ce que répond la doctrina sacra à cette critique? Bon, tout d'abord, pour cette dernière question, c'est à la fois très simple et très compliqué. Kant rejette la causalité. Donc la grande critique que Kant fait à saint Thomas d'Aquin, c'est qu'il n'accepte pas la causalité. Il n'accepte pas qu'on puisse dire qu'à tel effet correspond une cause, telle cause. Pourquoi? Parce que, en fait, Kant accepte, vous voyez, Kant divise le monde en deux mondes, en fait. Le monde de ce qu'on voit, les phénomènes. On analyse les phénomènes, on peut les voir, on peut les décrire. Et puis, le monde nouménal. Mais du monde nouménal, donc un monde qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas analyser. On ne peut pas en avoir une connaissance scientifique. Alors, en fait, dans la causalité, les effets, ils sont au niveau des phénomènes. On voit de la fumée. Et alors, dans la causalité, on essaye, à partir de ce qu'on expérimente, de ce qu'on voit, des phénomènes qui nous apparaissent, on essaye d'attribuer une cause antérieure. Et ce lien qu'on fait entre la cause et l'effet, ou l'effet et la cause, Kant le rejette. Alors maintenant, pourquoi il le rejette, etc., c'est là où ça devient très compliqué, parce qu'il faudrait reprendre un peu toute la philosophie de Kant. Alors là, on n'a pas le temps ce soir. Bon, alors, qu'est-ce que la doctrina répond à cette critique? La doctrina sacra, elle n'a pas pour but directement de répondre à cette critique. Oui, la doctrina sacra. Il faut bien comprendre. Qu'est-ce que c'est que la doctrina sacra? C'est la science divine. C'est le contenu de la révélation, le contenu de ce que Dieu veut me révéler. Et ce contenu, il nous le révèle, cette révélation, il nous la donne par la parole et par la tradition. Et la théologie a pour but d'expliciter le donné révélé. Alors, la doctrina sacra, directement, n'entre pas dans cette discussion entre saint Thomas et Kant. Pas directement. Alors, on pourrait bien sûr dire que, en fait, Dieu veut nous rendre réalistes, et donc il va indirectement tendre du côté de saint Thomas. Mais là, c'est quand même un peu aller loin. La doctrina sacra ne répond pas directement à ce problème-là. La doctrina sacra, Dieu ne me révèle pas si je dois accepter ou refuser le principe de causalité. Ce n'est pas directement l'objet de la révélation. Qu'est-ce que Dieu nous révèle? C'est lui-même. Il se révèle à nous dans ce qu'il est et comme sauveur, c'est-à-dire Dieu qui nous appelle à vivre de sa béatitude auprès de lui. Alors, qu'est-ce que la philosophie me dit de Dieu? Le Dieu des philosophes. Alors, le père Philippe n'a pas eu le temps de tellement développer. Vous avez, il a commencé avec les Grecs. Il a
très rapidement dit ce que Platon nous disait rapidement, ce que Aristote nous disait de Dieu. Ça a été très rapide, trop rapide. Il a aussi effleuré hein, ce que Parménide semblait avoir eu une révélation de Dieu. Bon, alors après, il a parlé des pères et il a commencé à voir saint Thomas. Bon, après saint Thomas, il y a eu Suarez. Après Suarez, il y a eu la scolastique. Et après la scolastique, Descartes. Et après Descartes, l'ontologiste. Donc quatre dégringolades successives. Hein? Et puis après, il y a eu la réaction de Kant contre l'ontologisme. Et ensuite, la réaction d'Hegel contre Kant. Et ensuite, la réaction de Feuerbach contre Hegel. Hein? Et puis enfin, donc l'athéisme contemporain. Alors, si vous entendez le Dieu quand vous parlez du Dieu des philosophes, il faut d'abord évidemment savoir si vous parlez de celui de Parménide, de celui de Platon, de celui d'Aristote, de celui de Descartes, de celui de Kant, etc. Bon, mais je pense que ce qui nous intéresse à nous, c'est de savoir ce que la philosophie, hein, la philosophie réaliste, nous dit de Dieu. Hein. Donc une philosophie qui implique une métaphysique. Alors la métaphysique nous fait comprendre ce que c'est que l'être. La métaphysique. Et au thème de la réflexion sur l'être, la métaphysique regarde la personne humaine. Et on se pose la question de savoir si la réalité est l'être le plus parfait qui existe. À partir de cette interrogation, naît tout un autre développement qui va être le développement de ce qu'on appelle la théologie naturelle. Donc, le commencement de ce développement de la théologie naturelle, la première étape, si vous voulez, aboutit à l'existence de l'être premier. Alors, cet être premier, le Père a commencé à nous le montrer, on le découvre à partir de cinq voies. Dans ces cinq voies, l'être premier, saint Thomas nous dit que les traditions religieuses appellent Dieu. Mais le terme philosophique, c'est l'être. Hein. L'être premier implique cinq dimensions. On le découvre de cinq manières. La première des manières, on parle de l'expérience hein, de nos appétits naturels et on aboutit à cet être qui est une intelligence subsistante dans sa bonté personnelle. Alors, intelligence subsistante. Je reprends les voies du Père dans de l'être à Dieu. Hein. Donc, la démarche proprement philosophique. Là, c'est plus direct. C'est pas les cinq voies parce qu'il a bien montré comment il fallait reprendre le problème aujourd'hui à partir d'une réflexion sur l'homme, sur la personne humaine et sur ses dimensions. Donc, la première des voies hein, nous fait comprendre que l'être premier est une intelligence subsistante dans sa bonté personnelle. Ensuite, alors là, il dit bien bonté personnelle. Ensuite, cet être premier est la perfection même, sans limite, mesure et cause de toute qualité. Un être qui est la perfection même. Sans limite. Mesure et cause. De toute qualité. Ensuite, il est découvert comme être nécessaire. Ensuite, il est découvert comme le vivant parfait, sans dépendance à l'égard d'un autre vivant, et sa vie est la vie de l'esprit, et enfin, il est découvert comme un être éternel au-delà de toute temporalité. Donc, être éternel. Oui, cinq regards. Le Père nous dit toujours que les cinq voies, hein, il faut toujours les regarder dans un regard synthétique. Hein, c'est cinq voies qu'il faut regarder ensemble et qui me donnent toutes un regard particulier, mais complémentaire avec les autres, sur l'être premier. Bon, cet être premier, après, voyez, comme il est atteint par une démonstration a posteriori, on ne peut pas dire, on ne le saisit pas tel qu'il est. Hein. Comme on part des effets et qu'on remonte à lui, on l'atteint par l'intelligence. Mais l'intelligence ne peut pas le saisir tel qu'il est. Hein. Quand je vois un chat, je saisis ce qu'est un chat. Hein, parce que je peux le comprendre. Il est là devant moi, je le saisis. Tandis que Dieu, je l'approche. Hein. Le Père parlait bien du lever du soleil. Mais le lever du soleil, ce n'est pas le soleil lui-même. Donc, mon intelligence est trop faible pour pouvoir le contenir. Il est plus grand que mon intelligence, mais je peux en saisir quelque chose. Alors, comme je ne peux pas dire ce qu'il est, parce que je ne le vois pas tel qu'il est, je peux quand même dire ce qu'il n'est pas. Alors, après avoir dit qu'il existe, il faut que je dise de quelle manière il existe, hein, sa manière d'exister, les différentes manières d'exister de l'être premier. Donc, non seulement je pose l'existence d'un être premier, en disant que cet être premier est l'intelligence subsistance, etc., après, j'essaye de préciser sa manière d'exister. Et pour préciser sa manière d'exister, je précise comment il n'est pas. Par exemple, le premier des attributs, on appelle ça traditionnellement les attributs divins. Le premier des attributs divins, c'est la simplicité. Mais je n'ai pas l'expérience d'une simplicité absolue. Donc je ne peux pas dire, quand je dis qu'il est simple, ça ne me dit pas grand-chose. Pour préciser ce que signifie que Dieu est simple, je précise qu'il n'est pas divisé. Être quelque chose qui n'est pas simple, c'est quelque chose qui n'est pas composé. Alors, je pars de l'expérience de toutes les compositions que j'expérimente. Hein. Je regarde toutes les... et je les nie. Par exemple, en moi, il y a composition d'âme et de corps. Bon, mais je ne peux pas attribuer cette composition à Dieu. Donc, en Dieu, il n'y a pas cette composition, etc. Donc, le premier des attributs, c'est la simplicité. Première manière d'exister, simplicité. Perfection. Ensuite, la bonté. Bon, ça, c'est les trois attributs principaux, en fait. Alors, il y en a d'autres, évidemment. Pour les donner dans l'ordre, on se réfère au manuel. Alors, après, oui, la bonté, c'est l'infinité. Infinité. L'immensité, infinité, immensité, stabilité, donc l'être premier est infini, l'être premier, la présence d'immensité, non, là c'est pas encore la présence d'immensité, il est immense, l'immensité, la stabilité, l'éternité, ensuite l'unité, Dieu unique. Il y a une unité. Et enfin, le philosophe parle de la vie de l'être premier. Vous voyez, pour préciser justement ces attributs de Dieu, qu'est-ce qu'on peut attribuer à Dieu? C'est important parce que Ça, c'est toujours dans le cadre de la question qui est posée. Hein? Qu'est-ce que mon intelligence peut dire de Dieu? Je ne peux attribuer à Dieu que ce qui en soi implique une perfection. La bonté en soi implique une perfection. Donc je l'attribue à Dieu. La vie en soi, est-ce qu'elle implique une perfection ou pas? Si elle implique en soi une perfection, je peux l'attribuer à Dieu. Alors, la notion de personne, est-ce qu'elle implique une perfection? Et est-ce que je peux donc l'attribuer à Dieu? Est-ce qu'il est parfait pour un être d'être une personne, ou est-ce que c'est une imperfection pour un être que d'être une personne? Bon. Alors, après que le philosophe ait posé son regard sur cet être premier, il essaye de regarder la relation qu'il y a entre l'être premier et les êtres, les autres êtres, tout ce qu'on expérimente. Est-ce qu'il y a une relation en cet être premier, qui est infini, qui est simple, qui est parfait, qui est bon, etc., avec les réalités que nous sommes, les réalités qui nous entourent? Alors, cette relation entre l'être premier et les autres réalités, c'est une relation de causalité, et cette relation de causalité, on l'appelle la création. Donc, la relation de l'être premier avec les autres êtres. Donc, relation de causalité, la création. Alors, évidemment, le philosophe va essayer de préciser ce qu'est cette relation. Donc, comme je viens de le dire, il le précise en disant que c'est une causalité, causalité fondamentale. La création s'arrête à des êtres. Le Père l'a dit un moment dans une conférence, que Dieu crée des êtres existants. Et lorsque Dieu agit, il agit dans un acte de contemplation, c'est-à-dire tout acte de Dieu, comme il est pensé de la pensée. L'activité de Dieu, c'est de penser et de se penser lui-même. Donc l'objet de sa pensée, c'est lui-même. C'est pour ça que Aristote dit qu'il est la pensée de la pensée. Donc l'acte de création ne peut se faire qu'à l'intérieur de cet acte de contemplation. Et donc la création est quelque chose de libre et de totalement gratuit. Quand Dieu crée, il n'obéit pas à une nécessité. Il ne s'est pas levé un matin en se disant, ben, aujourd'hui il faut que je crée, donc on va s'y mettre. Et on en a pour 6 jours. Non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. On ne sait pas comment ça s'est passé. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'y avait aucune nécessité pour lui de le faire. Et ça, le philosophe peut le dire. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ça provient d'un acte de contemplation. Et comme il se suffit à lui-même, la création n'apporte rien à Dieu. Bon, ensuite, alors, on essaye de regarder de quelle manière on peut voir que Dieu crée. Et alors, on prend 2 analogies. L'analogie de l'artiste, la création artistique. Donc Dieu crée comme un artiste. Alors on essaye de voir dans la création artistique ce qui peut être appliqué à la création de Dieu pour mieux nous le faire comprendre. C'est le comment de la création. Et puis la procréation. Dieu crée comme un père. Et c'est amusant parce qu'on va retrouver dans la Genèse ces deux grands axes, deux grandes visions sur la création, la création artistique et la paternité. Et bon, ensuite, la conséquence de cette création, c'est la présence d'immensité. Comme Dieu est créateur et qu'il crée les êtres, qu'il y a un lien immédiat de causalité entre une réalité existante et Dieu, c'est-à-dire que la conséquence, c'est que Dieu est présent partout. La présence d'immensité. Il est présent comme la cause des réalités. Ça ne veut pas dire que quand je fais un geste, c'est lui qui cause le geste. Il faut faire attention. Mais il est présent dans la réalité existante comme la cause de cette réalité. Et enfin, il y a tout le problème, alors, dans le cadre de la création,
de la providence. Le problème de la providence, c'est le problème du gouvernement divin. Hein, comment Dieu ordonne les êtres qu'il crée à une certaine fin. Alors, à Yaoundé, où j'enseignais au grand séminaire et puis chez les religieux, évidemment, j'avais toujours des discussions très intéressantes avec les séminaristes, parce qu'ils étaient évidemment très sensibles au problème de la providence. Hein. Quand on n'est pas influencé par l'athéisme, etc., on vit beaucoup plus proche de Dieu, hein. On s'intéresse beaucoup plus au problème de la providence. Et alors, à l'intérieur de ces problèmes-là, interviennent tous les problèmes de la sorcellerie, etc. Hein? Est-ce que Dieu peut permettre certaines choses, etc., etc. On essaye de réfléchir là-dessus. Bon, et alors, à partir de là, hein, après tout ça, on essaye de reprendre un peu toute la démarche philosophique pour voir ce que cette découverte de l'être premier et de l'être premier créateur peut me donner de plus, hein, comme réflexion, hein, sur les différentes parties de la philosophie, le regard de sagesse. L'aigle qui essaye de revoir un peu tout dans la lumière de Dieu et de l'être créateur. Alors, voilà ce que le philosophe peut me dire de Dieu. Alors, moi qui suis croyant, moi qui crois en Dieu. D'abord, si je crois en Dieu qui se révèle à moi, je dois d'abord accepter que ce Dieu existe. Alors, vous voyez, l'Église a très bien compris, dans le credo, on l'a bien dit tout à l'heure, la foi est obligée de s'énoncer en différents articles. Alors, dans le credo, on dit, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Vous allez dire, mais la foi dit que je crois en la création, comme on l'a dit cet après-midi. Alors, est-ce que la création est objet de foi? Ou alors, est-ce que la création est objet de la recherche philosophique? Ou alors, si la création est objet de foi, qu'est-ce que la foi me dit en plus sur la création que ne me dit pas la philosophie? L'existence de Dieu. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur. Je crois en Dieu. Donc, je crois en l'existence de Dieu. Alors, l'Église nous dit qu'en fait, dans le credo, il y a ce qu'on appelle les preambula fidei, c'est-à-dire ce qui est présupposé à la foi, qui peut être démontré et atteint par l'intelligence, mais que tout le monde ne peut pas faire. Donc, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de philosophie, il faut quand même lui dire, dans le credo, que Dieu existe, que Dieu est créateur, et que l'âme est immortelle. Alors, bon, pour en revenir à ce qu'on disait, je suis croyant. Il faut m'interrompre, hein. Si vous avez des questions, il faut des précisions, etc., il faut lever les doigts, parce que sinon... On parle et on ne sait pas si c'est vraiment ce qu'il faut. Alors, quand je suis croyant, hein, je crois en Dieu Trinité. Mais ce Dieu Trinité, il existe. Et la révélation ne va pas me dire, bon, quand Dieu s'est révélé et qu'il a dit à Moïse, je suis celui qui suis, bon, il a affirmé qu'il existait. Et quand il dit, je suis celui qui suis, bon, c'est une phrase, c'est à nous d'essayer de comprendre ce que ça veut dire, mais c'est une phrase qui est pleine de signification, c'est évident. Hein? Mais il ne précise pas que pour comprendre cette phrase, hein, il faut faire la métaphysique de l'être, hein, la métaphysique de l'acte, et comprendre ce que c'est le principe de causalité finale, hein, pour comprendre qu'il est d'une manière qui lui est propre, hein, qui implique la simplicité, la perfection, la bonté, etc. Mais en fait, si on regarde tout ce qui est dit là, hein, il n'y a pas contradiction entre ce qui est dit dans ma démarche philosophique avec le donné de ma foi. Alors donc, le Dieu découvert par la philosophie est le Dieu de la foi. Mais il est bien évident que le Dieu de la foi, le Dieu qui m'est révélé dans la foi,
ou ce que la foi me révèle de Dieu, est beaucoup plus riche. Parce que entre dire que Dieu existe et qu'il est un, qu'il est indivisible, et dire ensuite qu'il est en même temps trois personnes, que ces trois personnes sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et ensuite essaye de me faire découvrir donc tout le mystère de la Trinité, de la vie trinitaire, le mystère de la vie trinitaire, c'est infiniment plus que de dire que Dieu existe, qu'il est un, qu'il est simple, etc. Oui.
Est-ce que le philosophe peut dire de la providence? Et est-ce que le philosophe peut nous apporter quelque chose, pas comme la vision béatitude, mais dans un regard de justement ce fameux retour de Dieu vers l'homme?
Oui, alors ce que le philosophe dit de la providence, c'est comme Dieu crée l'homme. Parmi les êtres, Dieu crée le monde, et parmi les êtres qu'il crée, il y a une créature qui est particulière, qui est l'homme, qui est douée d'intelligence et de volonté. Mais lorsque Dieu crée, il crée suivant son intelligence et sa volonté. Donc il crée toute chose en vue d'une fin. Et dans la créature rationnelle qui est l'homme, il y a son intelligence qui est ordonnée à la vérité et sa volonté qui est ordonnée au bien. Donc cette intelligence ordonnée à la volonté, cette intelligence ordonnée à la vérité, trouve sa finalité et donc sa raison d'être dans la contemplation de la vérité première. Et la volonté n'a de sens, c'est-à-dire si on a une volonté en nous, elle n'est parfaitement actuée que par le bien suprême. Alors, et c'est là où, pour le philosophe, la mort reste toujours un problème. Parce que la mort empêche à la création, à la créature de Dieu, d'atteindre sa fin. Comprends? Donc, c'est pour ça, c'est une des voies qu'on essaye d'utiliser pour essayer de démontrer l'immortalité de l'âme. Parce que Dieu ne peut pas créer une nature avec un désir naturel qui soit vain. Dieu ne peut pas créer une réalité en lui donnant une finalité qu'il ne peut pas atteindre. Donc nécessairement, l'âme doit être immortelle pour pouvoir atteindre la fin pour laquelle elle a été créée. Alors maintenant, évidemment, le philosophe, lui, il ne peut pas dire qu'il y aura la résurrection des corps. Mais le philosophe dit que quand même, mon âme qui se sépare de mon corps, bon, elle atteint ce pour quoi elle a été créée, c'est-à-dire l'être premier, la bonté première, mais ontologiquement parlant, c'est-à-dire au niveau de son être, il lui manque quelque chose, parce que mon âme a été créée pour mon corps. Mon âme n'a pas été créée pour le corps du voisin, mon âme a été créée pour mon corps. Donc, une fois qu'il y a la mort, le corps, il est là. Donc, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Donc, il n'est pas avec l'âme. Donc, même si l'âme atteint sa fin, c'est-à-dire la fin de ses opérations vitales, l'intelligence, la volonté, dans la contemplation de Dieu. Là, on ne parle pas de vision béatifique, mais on parle de contemplation de la vérité première, du bien premier qui est Dieu, de l'être premier, quoi, la contemplation de l'être premier. Mais elle est ontologiquement dans un état d'imperfection. Il lui manque son corps. Alors, c'est le drame de la mort pour le philosophe. Alors, le gouvernement divin, c'est justement Dieu qui essaye de disposer sa création de telle sorte que les réalités qu'il a créées puissent atteindre leur fin. Au fond, c'est ça, en gros, le gouvernement divin. Oui?
Est-ce que tu pourrais préciser un peu les différences entre contemplation philosophique et contemplation chrétienne? Parce que les outils que tu donnes, là, finalement, tu parles beaucoup de connaissances. Il y a une voie de connaissance pour les Dieu. Une voie philosophique, et j'ai une autre voie de connaissance, la voie de la foi. Mais dans la foi, c'est quand même Dieu qui me communique sa vie. La grâce, elle n'est pas complètement de la communique, c'est une chose extrêmement vitale, c'est plus que de l'ordre de la connaissance. Moi, ça prend toute ma personne quand Dieu se communique à moi dans la foi. Après, je le précise vraiment en contemplation chrétienne, en contemplation naturelle, enfin, philosophique. Est-ce que c'est simplement une connaissance
ou est-ce que Dieu se communique au philosophe? Est-ce une contemplation naturelle sans la grâce?
Oui, alors au niveau philosophique, la contemplation, c'est quoi? C'est une adhésion affective de l'intelligence à la vérité, hein, qui se passe dans un acte de connaissance. La contemplation philosophique est essentiellement de l'ordre de la connaissance, mais avec la volonté, c'est une adhésion quand même affective. Hein, donc il y a le concours de la volonté. Alors, actuellement, elle est imparfaite à cause du corps, hein, qui alourdit, hein, qui rend difficile l'acte de contemplation. Alors, les grands philosophes, hein, les autres, les grands philosophes qui sont habitués à l'abstraction et à comme dirait Plotin, à se séparer du corps, hein, arrivent plus facilement à contempler parce qu'ils ont acquis un habitus de contemplation. Mais normalement, si on regarde philosophiquement après la mort, l'âme étant libérée du corps a beaucoup plus de facilité pour adhérer à la vérité première. Ça, on garde ça en philosophie. Hein. Bon. En fait, maintenant, la contemplation chrétienne, c'est très différent. Bon, d'abord, l'objet, hein, c'est Dieu. Et on adhère à Dieu par la foi, qui est une vertu théologale. Donc la foi, en fait, c'est un don de Dieu qui me fait adhérer à lui-même. Et en même temps qu'il me fait adhérer à lui-même, il me fait espérer la vision béatifique. Mais dans la foi, j'anticipe cette vision béatifique. La vision béatifique elle-même, qu'est-ce qu'elle est, hein? Elle est la vision, parce que là encore, saint Thomas prend toujours le thème de la vision. Hein? Donc, la vision de Dieu, la vision trinitaire, la vision de ce qu'est Dieu en lui-même, hein? Dieu Trinité. Et cette vision béatifique, bon, évidemment, Dieu dépasse mon intelligence. Même étant agrandi par la grâce, hein, Dieu me donne la lumière de gloire qui me permet de le voir. Hein, parce que Dieu ne peut pas être vu par nos simples facultés. Alors, cette vision, je ne l'ai pas encore actuellement, je l'anticipe dans la foi, mais donc d'une manière extrêmement purifiée et très, très, très débile par rapport à ce qu'elle sera.
Il y a effort de l'homme vers Dieu, et que ça ne nécessite pas le fait que le même effort dans le sens par ajouter une réflexion à côté de Dieu.
Oui, ben là c'est toujours le problème. Est-ce que Aristote pouvait découvrir, par exemple, que Dieu ait pensé la pensée sans que Dieu lui donne une certaine grâce entre guillemets? Alors, pas une grâce habituelle, parce qu'il n'a pas la grâce habituelle, mais une grâce qui lui permet de découvrir cette vérité qui est quand même si belle, hein, sur Dieu. Il semble, hein, qu'il y a quand même l'aide de la grâce, à cause de la faiblesse de notre intelligence. Mais en fait, la contemplation, elle a différents niveaux. Hein. Il y a une contemplation artistique. Quand vous avez créé une belle œuvre, ou quand vous êtes face à une belle œuvre, vous pouvez contempler cette œuvre. Hein? Vous pouvez contempler un lever du soleil. Donc il y a une certaine contemplation esthétique. Bon, il y a une contemplation qui est un peu plus intellectuelle, par exemple dans les mathématiques, qui est beaucoup plus pure. Hein? Et puis il y a une contemplation qui est encore plus élevée, la contemplation qui a pour objet la vérité première, l'être premier. Et puis la contemplation de Dieu, hein, qui se fait évidemment donc sous la mouvance de la grâce et sous la mouvance de l'Esprit-Saint qui me permet de vivre, de pénétrer à l'intérieur de la Trinité, oui. Alors, il faut répondre à la question. Alors, qu'est-ce que la foi, hein, oui. Alors, par exemple, déjà, au niveau de la création, hein,
par la philosophie, je montre que si mon corps me vient de mes parents, mon âme me vient directement de Dieu. Donc il y a création de mon âme, il y a un lien direct, un Dieu crée mon âme. Alors, le philosophe ne peut pas du tout dire à quel moment Dieu crée l'âme dans l'embryon. C'est difficile. Le philosophe ne peut pas préciser exactement à quel moment Dieu crée l'âme dans l'embryon. Alors, est-ce que le théologien peut préciser à quel moment Dieu crée l'âme dans l'embryon? C'est une question. Est-ce que le théologien ne me dit quand même pas un peu plus que le philosophe pour ce problème-là? Comme le Père ne répond pas, je ne vais pas répondre. Mais c'est... On peut quand même, il faut au moins se poser la question. Alors, par rapport à la création, vous voyez, les philosophes grecs n'avaient pas l'idée d'un commencement dans le temps de la création. Bon, le croyant, lui, à cause de la Genèse, a quand même toute une vision sur la création qui est beaucoup plus riche que celle du philosophe. Je ne pense pas que la Genèse aurait pu être écrite par un philosophe. Même s'il y a des choses de la Genèse qui peuvent être comprises par un philosophe, mais quand même, la Genèse n'aurait pas pu être écrite par un philosophe. Parce que, au fond, lorsque Dieu se révèle créant l'univers et créant l'homme, il ne fait pas que dire qu'il a créé des êtres spirituels, etc. Il nous donne son intention d'amour dans la création. Alors, le philosophe, lui, ne peut pas découvrir ça. C'est le croyant qui arrive à découvrir cette intention d'amour qu'il y a dans la création. Et l'amour incroyable que Dieu a pour cette petite créature qui est l'homme. Alors, les anges, les philosophes grecs croyaient bien qu'il y avait des êtres au-dessus des hommes, qu'ils soient des esprits. Bon, maintenant, ils ne les appelaient pas anges. Et puis, ils ne pouvaient pas les appeler anges et démons.
C'était plus des traditions religieuses. Par l'intelligence elle-même, est-ce que le philosophe peut découvrir?
Non, il ne peut pas inventer les anges. Mais comme les traditions religieuses en parlent, le philosophe peut dire que c'est pas absurde et ça va même avec l'harmonie de la création, puisqu'il y a les réalités purement matérielles, il y a l'homme qui est à la fois matériel et spirituel, il doit bien y avoir des réalités qui soient spirituelles, des créatures spirituelles entre l'homme et Dieu. Oui? Mais ça n'efface pas, vous voyez, la foi n'efface pas cette vérité-là. Justement, il faut bien comprendre ça pour comprendre ce que c'est que la charité. Comprendre qu'il est effectivement le tout autre, donc il y a un abîme entre Dieu et moi. Et si je ne comprends pas ça, je ne comprends pas à quel point c'est fou. D'abord, le mystère de l'incarnation est quelque chose d'incroyable. Et en plus, on ne comprend pas, la valeur de la charité. Comprendre que cet être qui est tout, qui est parfait, qui est tout puissant, etc., et moi qui suis absolument rien, il m'aime et il me propose de vivre une vie d'intimité avec lui. Donc, ça c'est pas une rupture, mais c'est assumer pour comprendre justement un dépassement incroyable. Et c'est là où la philosophie m'aide beaucoup, parce que sinon, on a tendance à rabattre un peu ces mystères-là, à les rapetisser un peu. Oui ? Hein? Ben, c'est quand même, vous voyez, la question que se pose le philosophe. Hein? On a posé l'existence d'un être premier, on a essayé donc de l'atteindre selon cinq voies, hein, selon cinq grandes dimensions. Après, on a essayé de voir de quelle manière il existe, et puis après, on regarde le rapport qu'il y a entre cet être et les réalités qui existent. Mais ce rapport, cette causalité qu'il y a entre l'être premier créateur et les réalités qui existent, hein, à quel niveau il se situe? Il se situe au niveau de l'être. Dieu crée des réalités existantes. Donc c'est l'exister de la réalité qui est causée par l'être premier. Mais c'est bien une relation de causalité efficiente. Parce que mon exister me provient de Dieu. Dieu est quand même cause, d'abord, premièrement, cause efficiente de mon exister. Et en même temps, il est cause finale. Puisqu'il est là, il est la fin de la création. Vous voyez, il y a quand même cette double causalité. On a bien dit qu'on prend comme analogie l'analogie de la création artistique. Or, dans l'œuvre artistique, l'artiste est cause efficiente de l'œuvre. Donc, la création est une causalité efficiente. Et en même temps, une causalité finale. Parce que Dieu est esprit. Et Dieu crée selon ça. En assignant une finalité à sa création, à sa créature. Donc vous voyez, dans les cinq voies, on remonte à Dieu par la causalité finale. Mais après, quand on regarde, une fois qu'on est remonté et qu'on regarde la réalité, on se rend compte que d'où viennent ces réalités de Dieu. Donc d'où, c'est la causalité efficiente. Et où vont ces réalités ? À Dieu. Ah oui, attention. On dit qu'on répondra plus tard, quand on étudie en métaphysique l'être. On voit qu'il y a une causalité. On fait une recherche du principe selon la forme et selon la fin. Pour la cause efficiente, on ne peut pas dire spontanément, l'expérience ne me dit pas que mon être vient de Dieu. Quand vous voyez un petit chat, tout d'un coup, vous ne pensez pas à Dieu. Vous ne dites pas que c'est Dieu qui a créé ce petit chat. Mais une fois que vous avez découvert l'être premier, ben, ce n'est que de lui que peut provenir l'être. Parce que si l'être provenait de quelqu'un d'autre que de Dieu, puisque lui-même possède l'être, l'exister, il faudrait que son être vienne d'un autre. Et donc, il ne serait plus Dieu. Ce serait embêtant. Un Dieu dépossédé de son identité. Voilà. De quoi passer une bonne nuit.